Chapitre 14. Grandes inquiétudes. Polly déposa le petit déjeuner sur la table sans quitter des yeux le téléscripteur qui dégorgeait imperturbablement les nouvelles du jour. Cette ubiquité, d'autant plus surprenante en apparence qu'elle ne nuisait en rien à l'efficacité du service, était en réalité facilitée par la nature même du petit déjeuner en question. En effet, tous les plats qu'elle venait d'apporter étaient enveloppés individuellement dans des récipients stériles servant à la fois d'autocuiseur et d'assiette, et que l'on jetait à la poubelle après usage. Ainsi, le rôle de Polly se réduisait-il à choisir le menu, à déposer les mets sur la table et à emporter les restes une fois le repas terminé. Ce qu'elle vit lui tira un claquement de langue et un faible gémissement de compassion rétrospective.
« Tout de même, les gens sont méchants, »
dit-elle. Ce à quoi Darrell répliqua sans se compromettre dans un grommellement indistinct. Sa voix prit alors ce timbre criard qu'elle adoptait automatiquement lorsqu'elle se préparait à déplorer la méchanceté du monde.
« Encore ces Calganais !»
Elle disait toujours « Calganais » au lieu de « Calganien ». « Mais pourquoi est-ce qu'ils font ça? Vous pouvez me le dire ?»
Ils ne peuvent pas nous laisser tranquilles à la fin. Encore des ennuis, toujours des ennuis. Voilà ce qu'ils nous rapportent, ces gens-là. À chaque fois, c'est pareil. Regardez ce qu'ils titrent. Émeute devant le consulat de la Fondation. Je leur dirais bien leur fait, moi, si je pouvais. C'est ça le problème avec les gens. Ils n'ont pas de mémoire. Ils oublient tout, docteur Darrell. C'est comme pendant la dernière guerre, après la mort du mulet. « Bon, c'est vrai, je n'étais pas bien grande à l'époque. Quel désastre, juste ciel, quel malheur! Mon oncle a été tué, vous savez. Il avait 20 ans à peine. Ça faisait tout juste 2 ans qu'il était marié et il avait un bébé. Je le revois encore, tiens. Il avait les cheveux blonds et une fossette au menton. J'ai un tridicube de lui quelque part. Et aujourd'hui, sa fille a elle-même un fils dans la marine. Et si jamais il arrive quelque chose ? Et il y avait la défense civile, et les anciens qui prenaient la garde à tour de rôle pour surveiller la stratosphère. Je me demande ce qu'ils auraient pu faire si les Calganais étaient venus jusque-là. Ma mère nous parlait tout le temps du rationnement, de la vie chère et des impôts. À l'époque, c'était difficile de joindre les deux bouts, vous savez. Vous pourriez croire que s'ils avaient 2 crédits de jugeote, les gens ne voudraient plus jamais revivre une chose pareille, qu'ils en seraient dégoûtés pour toujours. D'ailleurs, les gens du peuple, je ne crois pas qu'ils y soient pour grand-chose, en fait. J'ai bien l'impression que les Calganais préféreraient rester tranquillement dans leur famille plutôt que de partir comme ça n'importe où et d'aller se faire tuer. C'est Stettine. Oh, quel sale type, celui-là. Je me demande comment on permet à des gens pareils de vivre. Il a tué le vieux, comment s'appelait-il déjà, Talos. Et maintenant, il ne rêve plus que de devenir le maître de l'univers. Et pourquoi est-ce qu'il veut nous attaquer d'abord? Mystère? Mais il a perdu d'avance, de toute façon. C'est toujours pareil, en fait. Tout ça, c'est peut-être déjà écrit noir sur blanc dans ce fameux plan. Mais il y a des fois, je me dis que c'est une honte, ce plan, avec toutes ces batailles et tous ces massacres. Mais pour sûr, je n'ai rien à dire de Harry Seldon. Par contre, lui, il en sait certainement beaucoup plus que moi, et peut-être que je suis bien sotte de mettre en doute sa valeur. En attendant, la fondation, l'autre, là, la deuxième, elle est tout aussi coupable. Il pourrait arrêter Calgan tout de suite et tout serait fini, tout serait arrangé. Il faudra bien qu'ils y arrivent. Mais vous croyez qu'ils auraient l'idée d'intervenir avant qu'on ait commencé le gâchis?
Le docteur Darrell leva les yeux.
« Vous disiez quelque chose, Polly ?»
Polly écarquilla les yeux, puis les rétrécit avec colère.
« Rien, docteur! Absolument rien du tout !» « Vaut mieux tomber raide mort dans cette maison que de prononcer une seule parole. On vous dit toujours « courez par-ci, courez par-là », mais essayez seulement de dire un mot !»
Et elle disparut en maugréant. Son départ fit sur Darrell aussi peu d'impression que son discours. Calgan ? Plaisanterie. Un ennemi purement physique. Cela avait toujours été vaincu. Pourtant, il ne parvenait pas à entendre les nouvelles, à s'isoler de cette crise stupide, 7 jours plus tôt, le maire lui avait demandé d'accepter le poste d'administrateur de la recherche et du développement. Il avait promis une réponse pour aujourd'hui. Eh bien, il s'agitait, en plein désarroi. Pourquoi l'avoir choisi, lui? Et pouvait-il refuser? Son attitude paraîtrait étrange, et il n'osait pas se singulariser. Après tout, que lui importait Calgan? À ses yeux, il n'y avait toujours eu qu'un seul et unique ennemi. Tant que sa femme avait vécu, il n'était que trop heureux de se dérober à la tâche, de se cacher. Ses longues journées tranquilles sur Trantor, avec autour d'eux les ruines du passé, le silence d'un monde dévasté, dispensateur d'oubli. Mais elle était morte. Cette quiétude avait duré en tout et pour tout moins de 5 années. Après cela, il avait compris qu'il ne lui serait plus possible de vivre désormais qu'au prix d'une lutte de tous les instants contre cet ennemi redoutable et vague qui le privait de sa dignité d'homme en contrôlant sa destinée, qui faisait de sa vie une lutte stérile contre une échéance prévue d'avance, qui faisait de l'univers l'enjeu d'une haïssable et mortelle partie d'échecs. On pouvait appeler cela de la sublimation, c'est d'ailleurs ce qu'il pensait en son fort intérieur, mais ce combat-là donnait un sens à sa vie. Il avait commencé à l'université de Santani, où il avait fait cause commune avec le docteur Claes, 5 années bien remplies. Pourtant, Claes n'était bon qu'à une chose, rassembler des données. Passé cette étape, la tâche proprement dite était au-dessus de ses forces, Darrell l'avait bien compris. C'est alors qu'il avait décidé que le moment était venu pour lui de partir. Claes avait beau avoir travaillé en secret, il n'avait pas pu se dispenser d'avoir autour de lui des collaborateurs œuvrant pour lui et avec lui. Il avait à sa disposition des sujets dont il sondait le cerveau. L'université le soutenait. Autant de faiblesses. Claes n'arrivait pas à comprendre cela. Et lui, Darrell, était incapable de le lui expliquer. Ils se séparèrent ennemis. Tant mieux. Il le fallait. Il devait absolument abandonner la partie en vaincu, pour le cas où un œil indiscret aurait été le témoin de leur mésintelligence. Là où Claes opérait sur des graphiques, Darrell travaillait au moyen de concepts mathématiques dans les arcanes de son esprit. Claes possédait de nombreux collaborateurs, Darrell aucun. Claes travaillait dans une université, Darrell dans le calme d'une maison de banlieue. Et il touchait presque au but. Un membre de la seconde fondation n'avait rien d'un être humain du strict point de vue mental. Le plus fin physiologiste, le plus subtil des neurochimistes, pouvait bien ne rien détecter. La différence était là, forcément quelque part. Et puisque la différence se situait dans le cerveau, c'était là qu'on devait pouvoir la détecter. Étant donné un homme tel que le mulet, et les membres de la seconde fondation possédaient sans aucun doute des pouvoirs comparables aux siens, qu'ils fussent innés ou acquis, avec la faculté de détecter et de domestiquer les émotions humaines, il s'agissait d'en déduire le circuit électronique convenable qui permettrait de mettre au point, dans les plus infimes détails, l'encéphalographe sur lequel l'anomalie ne serait manquée d'être mise en évidence. Et voilà que Claes était en quelque sorte ressuscité en la personne de son jeune élève, le zélé Antor. Quelle absurdité! Que faire de tous ces graphiques, de tous ces schémas psychiques récoltés sur des personnes soupçonnées d'avoir été manipulées? Il y avait des années qu'il avait appris à les identifier. En était-il plus avancé pour autant? Ce n'est pas l'outil qu'il lui fallait, mais le bras. Pourtant, il devait se résigner à suivre Antor, puisque c'était la voie la moins dangereuse. Pour ces motifs, il allait donc également devenir administrateur de la recherche et du développement. La voie la moins dangereuse, encore une fois. Et ainsi, il demeurait un conspirateur au sein même de la conspiration. L'espace d'un instant, il songea à Arcadia. Mais il repoussa cette pensée avec un frisson. S'il n'avait tenu qu'à lui, tout cela ne serait jamais arrivé. Nul autre que lui-même n'aurait été en danger.
s'il n'avait tenu qu'à lui. Il sentait la colère l'envahir. Il en voulait à tout le monde, à Claes, à Antor, à tous ces imbéciles pleins de bonnes intentions. Une petite voix se mit à chuchoter dans sa tête. Elle saurait bien se débrouiller après tout. Elle était même plutôt en avance sur son âge. Oui, elle saurait bien se débrouiller. En était-elle vraiment capable? Au moment précis où le docteur Darrell se posait la question avec angoisse, Arcadia se trouvait assise dans l'antichambre particulièrement austère des bureaux exécutifs du premier citoyen de la galaxie. Elle attendait depuis une demi-heure, laissant errer lentement ses regards sur les murs. Deux gardes armés étaient postés à la porte lorsqu'elle était entrée en compagnie de Omir Mun. Ils n'étaient pas là les autres fois. Elle était seule à présent, et pourtant, elle était sensible à l'hostilité latente qui semblait émaner du moindre objet, du moindre meuble, et cela pour la première fois. Elle ne s'expliquait pas la raison de ce sentiment. Omir se trouvait dans le bureau du seigneur Stettin. D'où venait son inquiétude? L'irritation la gagnait. Dans les vidéolivres et dans les films, lorsque le héros se retrouvait dans une situation pareille, il réfléchissait un peu et devinait ce qui allait se passer ensuite. Il se préparait. Alors qu'elle? Elle restait assise là sans rien faire. Bon sang. Mais il pouvait se passer n'importe quoi, n'importe quoi. Et elle restait assise là sans bouger. Pas de panique. Il suffisait de se remémorer les événements. Peut-être qu'en faisant cela, la solution viendrait d'elle-même. Pendant 2 semaines, Omir avait pratiquement vécu dans le palais du mulet. Elle l'avait accompagné une fois avec la permission de Stettin. L'édifice était immense, massif, franchement sinistre pour tout dire. On eût dit que cette grande bâtisse se rétractait au contact de la vie pour se réfugier dans un sommeil fait de souvenirs éclatants, réverbérant à dessein les bruits de pas des visiteurs en échos caverneux ou en claquements métalliques. La visite lui avait laissé une mauvaise impression. Elle préférait de loin parcourir les grandes avenues de la métropole, pleines de gens exubérants et joyeux, se rendre au théâtre, ou contempler tout simplement le merveilleux spectacle de la rue sur un monde qui, bien qu'infiniment moins riche que la Fondation, n'en mettait pas moins un point d'honneur à afficher cette richesse dans des proportions infiniment supérieures. Le soir venu, Omir rentrait, transfiguré.
« Je rêve, c'est le paradis ici, pour moi, » murmurait-il. « Si seulement je pouvais démanteler le palais pierre par pierre, arracher l'aluminium expansé, couche par couche, si je pouvais rapporter tout ça sur Terminus, quel musée nous aurions !»
Sa réticence initiale paraissait s'être envolée. Une flamme nouvelle semblait même l'habiter, la soif de la découverte. Arcadia en avait désormais la certitude, car elle connaissait un indice infaillible. Dans ces moments-là, il ne bégayait pratiquement plus. Un soir, il dit « Il y a des lacunes dans les archives concernant le général Pritchard.
Je sais qui c'est. C'était un renégat, issu de la Fondation, qui a ratissé toute la galaxie à la recherche de la seconde Fondation, c'est ça?
Ce n'était pas tout à fait un renégat, Arcadie. Le mulet l'avait converti.
Oh, c'est pareil.
Par l'espace, ce ratissage, comme tu dis, était voué à l'échec. La Convention Seldon s'est tenue il y a maintenant 500 ans. C'est au cours de cette réunion qu'a été décidée la création des deux fondations, je te le rappelle. Les actes originaux ne mentionnent qu'une seule fois la seconde fondation. On y dit simplement qu'elle se trouve à l'autre bout de la galaxie, sur Finistel. Ce sont là tous les renseignements dont disposaient le mulet et Preacher. Ils ne possédaient aucun moyen d'identifier la seconde fondation, même s'ils avaient découvert sa retraite. Dans ces conditions, quelle folie que de se fourrer dans pareille entreprise. Ils possèdent des archives,
il se parlait à lui-même, mais Arcadia écoutait de toutes ses oreilles, qui doivent couvrir presque 1 millier de mondes,
et cependant, le nombre de planètes qui s'offraient à leurs investigations doit avoisiner le million, et notre situation n'est guère meilleure.
Chut!
interrompit Arcadia à mi-voix. Omir se pétrifia sur place et reprit lentement ses esprits.
« Plus un mot !»
marmonna-t-il.
À présent, Omir se trouvait en présence du seigneur Stettin, tandis qu'Arcadia l'attendait à l'extérieur, le cœur serré par une angoisse dont elle ne s'expliquait pas la raison. Or c'est cela justement qui l'effrayait par-dessus tout, avoir peur sans raison.